détection d'une situation concurrentielle dans l'économie, on ne serait pas riche aujourd'hui. Les marchés ne peuvent fonctionner que parce que l'État leur offre un cadre structurel. Dans ce cadre, l'entreprise peut se développer et assurer une production efficace. L'État crée un parapluie sous lequel toutes les activités sont protégées.
Innerhalb derer die Unternehmen dann tätig sind.
Now, you know, a more reasonable understanding is really recognizes the extent.
Une vision peut être plus rationnelle. C'est de reconnaître comment le marché et l'État interagissent.
Sometimes in good ways, sometimes in not such good ways.
Parfois d'une bonne manière, parfois d'une moins bonne. Par exemple, dans notre économie capitaliste, si vous prenez une petite invention comme Internet, c'est la création à 100% du gouvernement. Je sais, Bill Gates dit qu'Internet est sorti du cerveau de jeunes qui faisaient des expériences dans leur garage. Ce n'est pas vrai. La technologie de l'Internet qui intègre, lie les ordinateurs les uns aux autres, cela vient entièrement du gouvernement. Ça a été financé par le gouvernement pendant 40 ans. On a transféré au marché une activité publique entièrement financée par le gouvernement.
Les tuyaux de l'Internet, au sens le plus littéral du terme, ça a d'abord été une affaire d'État. C'est l'État, c'est l'armée, c'est les grands laboratoires de la recherche publique qui ont créé les bases infrastructurelles de l'Internet sans lesquelles l'activité vibrionnante des start-upers en garage n'aurait rigoureusement aucun sens, aucune possibilité d'exister. Donc voilà, c'est donc ce qu'il faut saisir, c'est non pas le face-à-face antinomique, mais l'intimité des rapports de l'État et de son supposé autre radical et la manière dont ces rapports se configurent de manière variable dans le temps. Voilà. Et voilà, nous sommes actuellement dans une certaine configuration de ces rapports, qu'on appelle le néolibéralisme en particulier, et où l'on voit bien que les plus grandes puissances privées du capital ne peuvent pas faire comme si l'État n'était pas là. Elles continuent d'avoir besoin de l'État pour faire progresser leurs propres intérêts. Elles trouvent d'ailleurs le plus souvent en ce moment une oreille accueillante et compréhensive.
Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme dont les élites s'étaient compromises avec les nazis est obligé de composer avec l'État-providence et la planification, ce qui limite le pouvoir des marchés. À la faveur de la crise des années 70, le libéralisme reprend l'avantage sous le nom de néolibéralisme, un système qui reconfigure l'État en supplétif des marchés.
Le préfixe néo saisit un ensemble de rapports inédits qui lient les marchés. J'ai toujours un peu de réticence à utiliser cette catégorie. Bon, je m'en expliquerai peut-être plus tard, mais qui lie les marchés et l'État. Et précisément un rapport qui n'est pas antinomique. C'est-à-dire un rapport dans lequel l'État est en quelque sorte le conservateur du marché. Là, on est au plus près, par exemple, de la doctrine ordolibérale, qui est la variante allemande du néolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est que le système de concurrence libre et non distordu n'existe pas par génération spontanée. Il faut non seulement l'instituer, mais il faut aussi le surveiller pour le maintenir, et pour le maintenir en particulier contre des forces endogènes qui naissent de l'intérieur donc du système et qui poussent à la reconcentration et à la reconstitution soit d'oligopoles, soit carrément de monopoles, ce qu'on appelle les monopoles naturels, par exemple. Je pense à l'énergie, les transports, etc.
Really, the beginning, I think, we trace the beginning of neoliberalism, I think, to Chile.
Le néolibéralisme commence le 11 septembre 1973 au Chili. à la suite d'un coup d'État contre le président marxiste Salvador Allende. C'était le premier socialiste marxiste communiste d'Amérique latine qui était élu démocratiquement. À l'époque, un tiers du monde était communiste et on mettait en avant que ce n'était jamais via des élections démocratiques. C'était toujours violemment qu'on prenait le pouvoir. Allende a été élu en 70. En 73, il y a eu ce terrible coup d'État. Mais ce n'était pas juste un coup d'État. Ce qui s'est passé le lendemain est plus important, quand le général Pinochet a voulu mettre en place un nouvel ordre économique. Il a appelé les Chicago Boys et avec le professeur Milton Friedman, ils ont mis en place le néolibéralisme. Cela lui a donné une légitimité. Quand Thatcher est arrivée au pouvoir en 1979 au Royaume-Uni, Reagan en 80 aux États-Unis, il y avait déjà quelque chose d'installé, un système capitaliste beaucoup plus agressif.
Le programme politique du néolibéralisme, et ça, Michel Foucault le dit avec une clarté très forte, ce qui n'est pas toujours le cas de tout ce qu'il dit, c'est de détruire le marxisme, c'est de détruire le communisme. D'accord ? Et par là, ce qu'il veut dire, c'est que c'est de détruire une vision du monde qui serait... une vision qu'il existerait des classes, d'accord ? Qu'il existerait une classe des travailleurs et une classe des capitalistes ou des producteurs. D'accord ? En transformant tout consommateur en entrepreneur, en favorisant une forme des entreprises qui est vraiment diminuée à sa composante presque juridique. Elle passe des contrats. Eh bien, on en vient à créer un flou entre ce qui est de l'ordre du travailleur et ce qui est de l'ordre de l'entreprise, du producteur.
En fait, néolibéralisme...
Le néolibéralisme n'a réussi que lorsque les partis de gauche, le Parti travailliste en Angleterre, les démocrates aux États-Unis, ont été conquis par des forces pro-capitalistes. Clinton était contrôlé par Wall Street, Blair par les capitalistes anglais, et donc ça a fait basculer les relations entre l'État et le marché. Le pouvoir du marché est devenu plus important une fois que les partis de gauche estimaient que les capitalistes savaient ce qu'il fallait faire. On ne pouvait plus les remettre en cause. Alors vous avez l'émergence de cette variante du capitalisme, le néolibéralisme, qui est beaucoup plus agressif.
Le néolibéralisme s'en prend à l'homme. Il s'en prend à l'homme d'une manière inédite, c'est-à-dire il reconfigure un type d'homme. Bon, évidemment, on peut dire que tout système social configure son type humain. Je m'excuse de faire un détour, mais on s'est toujours soit beaucoup moqué, soit beaucoup terrorisé de ce que le système soviétique avait affiché sa vocation à engendrer un homme nouveau. Et on disait, mais c'est monstrueux, un truc pareil. Ils veulent s'en prendre à l'homme, à l'humanité de l'homme. Mais le capitalisme n'a jamais fait autre chose. Le capitalisme crée son type humain. Il crée le consommateur, il crée le petit propriétaire pavillonnaire, etc., etc. Et ça, c'est un type humain. Il n'y avait donc pas de raison de lever les bras au ciel quand les soviétiques disaient qu'ils allaient produire un homme nouveau. De fait, ils allaient le faire, mais exactement de la même manière que le capitalisme lui aussi, et le néolibéralisme aussi, produit son type humain. Et lui, il a en vue un type humain très particulier, alors qu'il y a bien des raisons de trouver atroce, hein, qui est le petit entrepreneur de lui-même, l'entrepreneur de sa propre vie. Alors ça passe par toute une série de catégories plus ou moins ésotériques ou exotériques. Par exemple, la théorie du capital humain des économistes est vraiment le discours qui s'ignore ou qui ne s'ignore pas, j'en sais rien, de ce nouveau type humain qui est promu par le néolibéralisme, un porteur de capital fait d'un certain nombre d'aptitudes destinées à être contracté, enrichi, développé, etc., etc. Voilà, l'entrepreneuriat général de soi.
Les néolibéraux, eux, ils disent le marché n'existe pas en tant que tel, mais le marché est une bonne chose en tant que tel. Donc c'est là que cette théologie, si on veut, elle est un peu bizarre. On dit, il y a cet outil qui est une bonne chose en soi, qui va permettre de créer une meilleure société, mais il n'existe pas. Et donc là, on fait venir l'État, et l'État a, dans la vision néolibérale, un rôle qui est celui de créer, de développer et d'étendre le marché. Donc l'État agit pour le compte du marché, et ce marché va légitimer l'État.
Dans le discours à boulet rouge contre l'État, etc., etc., les dominants du néolibéralisme font soigneusement leur tri aussi. Alors soigneusement, manière de parler. En gros, on ne veut plus, on compte sur l'État, qui d'ailleurs confirme ici, même si c'est sur un mode négatif, qu'il est la puissance institutrice de dernier sort. On compte sur l'État pour refaire les institutions à notre main. Refaire le code du travail, refaire les conditions de la concurrence marchande, refaire les conditions d'opération de la finance, en plus étendues, en plus libre, entre guillemets, etc., etc. Mais on sait bien que de l'État, il va nous falloir garder un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Bon, bah, la force publique, hein. Et puis on sait que c'est l'État qui aussi a la main sur certaines grandes infrastructures ou sur certains grands marchés d'équipement. Donc, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, Serge Dassault, ou feu Serge Dassault, pouvait être à la fois le propriétaire du Figaro qui fait tirer à boulet rouge idéologiquement sur l'État, sa présence envahissante dans l'économie et ses tendances à l'obésité, et d'autre part, entretenir les meilleurs rapports du monde avec tous les individus concrets qui occupaient concrètement les sommets de l'État. Parce qu'il faut bien continuer à faire des affaires, et que sans eux, il ne peut pas les faire. Voilà. Ce sont des rapports qui sont marqués de rationalité, d'irrationalité, de duplicité, de bêtises crasses parfois. Ça fait des configurations complexes, mais intéressantes.
Dans la configuration actuelle de l'économie, les crises apparaissent régulièrement comme des éruptions volcaniques qui secouent le système. Quelle que soit leur ampleur, ces crises ne l'abattent pas pour autant. Au contraire, il semblerait qu'elles le renforcent.
We have the financial crisis.
La crise financière de 2008 n'était jamais censée arriver. Depuis 30 ans, le noyau dur des économistes nous disait que des crises de l'ampleur de la Grande Dépression des années 30 ne pouvaient plus arriver. On a compris le capitalisme, on sait comment il fonctionne. Il fonctionne mieux. Plus jamais on aura des crises comme ça. Et de toute façon, la crise de 1930, c'était parce que les gouvernements avaient fait des bêtises et ce n'était pas à cause du marché. Et la crise arrive. Je dois dire qu'en 2008-2009,